Vous êtes sur RTL.
J'ai vu sa silhouette il y a quelques instants. Nous serons avec Laurent Gérard dans quelques minutes. Mais tout d'abord, notre revue de presse et Amandine Bégaud. Et puis d'abord, un bébé à l'ONU, Amandine.
Oui, un bébé dans l'enceinte des Nations Unies, au milieu des chefs d'État du monde entier. C'est du jamais vu. L'image a fait le tour du monde. Elle était la star lundi à New York, écrit ainsi ce matin le journal 20 minutes. Ce bébé, c'est une petite fille de 3 mois, la fille de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise. Alors vous vous souvenez peut-être d'elle, on en avait beaucoup parlé lors de sa grossesse. Elle était d'ailleurs devenue en juin la deuxième chef d'un gouvernement à avoir un bébé tout en étant au pouvoir, deuxième dans le monde. Et bien lundi, c'est donc avec son bébé qu'elle a débarqué au sommet organisé en l'honneur de Nelson Mandela en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La petite fille est restée dans les bras de son papa, tétine à la bouche, le temps du discours de sa maman, qu'il a ensuite bien sûr reprise. La scène en a surpris plus d'un. Le papa raconte ainsi sur Twitter qu'il aurait adoré pouvoir capturer l'air surpris de la délégation japonaise quand elle a pénétré dans la salle de réunion en plein changement de couche. C'est sûr qu'on en aurait aimé voir la tête. Jacinda Ardern, en tout cas, a fait, écrit Le Monde, de ce bébé une partie intégrante de son offensive de charme aux États-Unis. Et ça fonctionne, qui plus est dans le contexte actuel. Elle a été invitée sur de nombreux plateaux télé, celui notamment du Today Show, le programme phare de la chaîne NBC. En riant, elle a confié que ça lui avait parfois semblé aussi dur de diriger un pays que de s'occuper d'un bébé de 3 mois pendant un vol de 17 heures. 17 heures, c'est le temps qu'il faut pour rallier la Nouvelle-Zélande à New York. Concilier famille et politique, l'exercice est périlleux et en voilà un qui en sait quelque chose. Lui, c'est François Hollande. L'Express raconte ce matin comment l'ancien président s'est fait peur. Mais alors très très peur lors du dernier remaniement gouvernemental. Il a bien cru en effet que Ségolène Royal allait rejoindre Emmanuel Macron. Ce lundi 3 septembre, la veille donc du remaniement, François Hollande déjeune avec la mère de ses enfants. Il n'en revient, écrit l'Express, pas totalement rassuré. Elle est capable d'accepter, a-t-il même glissé à l'un de ses amis. Le lendemain, l'annonce de la nomination de François de Rugy, il pousse un ouf de soulagement, mais nouveau coup de chaud. La semaine suivante, François Hollande découvre la une de Paris Match, lui et Julie Gayet qui prennent la pause. À l'intérieur, un reportage sur le couple et puis deux pages sur lui en compagnie de Ségolène Royal lors du mariage de leur fils. Embarrassé, il aurait toujours, selon l'Express, lâché les deux comme ça quand même. On imagine la scène. Dans vos quotidiens aussi ce matin, le nouveau défi de Manuel Valls, c'est notamment la une du Figaro et des éditorialistes pour le moins sceptiques. Jean-Louis Hervoy de la Charente Libre évoque ainsi un défi qui ne manque pas de sel. Sébastien Lacroix de l'Union salue lui un Manuel Valls qui quitte la scène hexagonale avec panache. À défaut, je cite, d'être accueilli avec les honneurs par les Barcelonais. C'est vrai qu'à Barcelone, justement, la candidature de Manuel Valls ne fait pas ce matin les gros titres. Pas ce matin, en tout cas. La Vanguardia, le journal local, se contente ainsi d'une petite photo en bas de première page avec ce titre. Valls se propose pour freiner le déclin de Barcelone. L'ancien Premier ministre, nettement mieux mis en valeur, en revanche, à la une d'El País, le grand quotidien national de référence, avec une photo en plein centre d'un Manuel Valls, les bras ouverts, en position quasi christique. Et puis autre visage à la une ce matin de vos journaux, c'est celui de Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste, vous le savez peut-être, a annoncé hier qu'il avait été opéré d'un cancer de la prostate, annonce faite sur les réseaux sociaux. Par lui-même, j'ai subi, a-t-il écrit, une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien. Il a, expliquons à TF1, pensé que c'était la meilleure démarche. Les fans, d'ailleurs, écrit ce matin Le Parisien aujourd'hui en France, n'ont sans doute pas remarqué cette petite phrase avec laquelle il avait choisi vendredi dernier de clôturer son journal. Vive la vie, vive l'automne et bon week-end. Le quotidien n'entend en tout cas que ce genre d'annonce est encore bien trop rare de la part d'une personnalité. La maladie est pourtant courante. Elle touche, dans le cas du cancer de la prostate, un homme sur et c'est d'ailleurs, j'ai découvert ça, le cancer qui touche le plus de Français. 70 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, plus donc que le cancer du sein et que celui du poumon. Toujours dans les colonnes du Parisien, François-Olivier Gisbert, autre visage bien connu des Français, raconte ainsi comment pendant des années, il a caché son cancer de la prostate. C'est son médecin de l'époque, Bernard Debré, dit-il, qui lui avait conseillé de ne pas en parler, de n'en parler qu'à sa famille. Je me souviens parfaitement de son avertissement. Si tu le dis aux autres, tu verras la mort dans leur regard. Fogg, on le surnomme, attendra 6 ans pour raconter son secret dans un livre. L'éditorialiste salue aujourd'hui la démarche de Jean-Pierre Pernaut. Il y voit aussi le signe, la preuve que les choses évoluent. On est tous, conclut-il bien sûr avec lui, il a besoin d'être soutenu et entouré de tous, car c'est une sacrée lutte. Et bien ce matin, nous aussi, on souhaite à Jean-Pierre Pernaut de se remettre très vite.
Ah oui, alors je me joins à vous. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.